comme les prévoyants maîtres de chantier, protégez vos ouvrages avec Suno Assurance. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans Priorité Santé. Quel parent ne s'est pas senti un jour désarçonné, démuni, désemparé ou énervé face à la peur, la tristesse, la colère ou la jalousie de son enfant? Autant d'émotions parfois aussi soudaines que démesurées et incompréhensibles. Des émotions qui, lorsqu'elles sont mal gérées, peuvent être source de conflits et compliquer le quotidien d'une famille, l'apprentissage scolaire et plus généralement les relations aux autres. Quelle attitude adopter face aux émotions des enfants ou des adolescents? Comment réagir en cas de crise? La méditation peut-elle faciliter l'apprentissage des émotions? Quel rôle doit jouer l'école dans cet apprentissage? Comment développer l'intelligence émotionnelle? Quel bon exemple les adultes doivent-ils donner? On va tenter de répondre à ces questions avec nos invités. Docteur Lélia Benoît, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pédopsychiatre à la maison de Solène à l'hôpital Cochin à Paris et vous avez publié en 2016 « L'adolescent fragile, peut-on prédire en psychiatrie ?» aux éditions Recherche. Clarisse Gardet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sophrologue et vous signez « Grandir avec ses émotions » aux éditions du Livre de Poche. Tout à l'heure, nous aurons en ligne le professeur Lamine Fall, chef du service de pédopsychiatrie de l'hôpital de Fan à Dakar au Sénégal. Et en fin d'émission, nous retrouverons la chronique sport du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport et médecin de l'équipe nationale de judo. Si vous voulez témoigner ou poser des questions à nos invités, n'hésitez pas à nous appeler au 33 1 84 22 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Lélia Benoît, à partir de quel âge l'enfant commence-t-il à manifester des émotions ?
Depuis le tout début de sa vie, je pense que c'est difficile de s'en rendre compte, mais dès la vie in utero, l'enfant est ému par des émotions. Oui.
Clarisse Gardet, vous confirmez, le nouveau-né est tout de suite sensible aux émotions qu'éprouvent ses parents, par exemple?
Ah oui, 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 et puis il en éprouve, il cherche le contact, il réagit au sourire, il réagit s'il est dans un milieu hostile ou bénéfique. Oui, oui, je crois que c'est...
Donc chez l'enfant, on peut déjà parler à ce moment-là de réaction émotionnelle?
Oui, oui, tout à fait.
Clarisse Gardet, le mot émotion, vous le rappelez dans votre livre, est un dérivé d'émouvoir qui vient du latin movere, remuer, mettre en mouvement. C'est pour cela que vous écrivez que l'émotion est le mouvement même de la vie, ce n'est pas un état qui caractérise quelqu'un.
Tout à fait. Je pense que une émotion, ça nous prend, ça nous envahit. C'est assorti d'un tas de phénomènes physiques. C'est avant tout une émotion. C'est très physique et c'est un mouvement qui nous traverse. C'est très palpable. Je crois on l'a tous éprouvé. Quand on a peur, quand on est joyeux, quand on est en colère, il y a vraiment des phénomènes physiques qui sont très caractéristiques qu'on apprend à décider.
Docteur Benoît, quelle est la différence entre émotion et sentiment?
Alors,
je vous pose une colle.
Là, vous me posez une colle. Je dirais que l'émotion, effectivement, a une caractéristique beaucoup plus corporelle que le sentiment, qui est beaucoup plus lié à la pensée, aux idées, à ce qu'on va éprouver en termes d'idées, au-delà des émotions.
Alors c'est un psychologue américain, Paul Ekman, qui a identifié la palette d'émotions de base. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve ces émotions de base dans toutes les cultures. Clarisse Gardet.
Oui, tout à fait. Il a aussi, il a montré que au niveau des visages, on pouvait reconnaître ces émotions. Et c'est très pratique, d'ailleurs, notamment avec les enfants, avec les adolescents, pour expliquer les émotions, de se servir de ces 6 émotions de base. Et
on peut les rappeler.
Il y a la joie, la colère, la tristesse,
la surprise,
le dégoût
et
la peur.
Et ces émotions de base, donc ces 6 émotions de base, donc l'enfant commence à les ressentir comment dans sa première année de vie, docteur Benoît?
Eh bien, l'enfant est au départ traversé effectivement par ses émotions sans savoir exactement ce qu'elles signifient. Il va bouger, peut-être faire des sourires, effectivement pleurer, mais sans savoir exactement ce qu'il traverse. Mais il est traversé, ça c'est sûr. Et finalement, c'est avec le dialogue avec les parents qui vont dire « Ah, tu es triste » ou « Ah, tu n'aimes pas ça » ou « Ah, tu es content » que l'enfant va apprendre à mettre des mots sur ce qu'il ressent et petit à petit à se rendre compte que ce n'est pas la même chose ce qu'il ressent quand ses parents disent qu'il est content et donc il est content et ce qu'il ressent dans son corps quand ses parents disent qu'il est triste.
Je vous propose d'écouter un témoignage. Lucie, bientôt 4 ans, est une petite fille à fleur de peau, elle déborde d'émotions. Ses réactions, qu'elles soient positives ou au contraire négatives, sont souvent extrêmes et parfois déroutantes pour son entourage. Ndeye Alatiba a rencontré la maman de Lucie, Cécile.
Quand elle est très joyeuse, c'est-à-dire elle va rire aux éclats, elle va presque se rouler par terre de rire. Quand elle est très triste, ça va être des torrents de larmes. Et quand elle est en colère, c'est la grosse colère, c'est très impressionnant et ça dure très longtemps.
Comment tu t'appelles ?
Lucie !
Elle a du mal encore à articuler et parfois à se faire comprendre, ce qui peut générer des crises de colère assez impressionnantes, parce que parfois elle veut un truc simple et elle n'arrive pas à le verbaliser. Alors elle se roule par terre, elle crie, elle hurle. Et c'est pas toujours facile à gérer, donc on essaye de rester calme et de lui dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu cries, qu'est-ce que tu veux, et quand, parfois on arrive à comprendre, donc on,
et moi, on lui donne. Et moi, si t'es en colère, pourquoi tu me fais avec les enfants, et bien, bien, bien.
Parfois tu te mets en colère avec les enfants?
Parce qu'en fait, ils sont pas gentils avec moi et je me mets en colère.
Ils sont pas gentils avec toi et ça te met en colère?
La rentrée scolaire, elle est rentrée en maternelle, ça a été très difficile pour elle. Et il y a un soir où elle est rentrée, je crois que son père avait appuyé sur le bouton pour ouvrir la porte à sa place. Ça l'a mise dans une colère noire et on a mis une heure à la calmer. Il n'y avait rien qui la calmait. C'était, elle criait dans tous les sens, elle hurlait, elle tapait dans les murs, elle donnait des coups de pied dans les portes. Et ça a été très difficile de la canaliser. Donc on a essayé de la câliner, de se fâcher un petit peu, on a essayé l'humour, et je crois que finalement après on l'a mise dans le bain et ça l'a calmée un petit peu. Mais elle était tellement épuisée d'avoir hurlé tant de temps que finalement je pense que c'est l'épuisement qui a eu raison de sa colère. La difficulté aussi c'est le regard des autres. On est dans la rue, elle fait une colère, les gens se retournent, ils vous regardent comme ça. Quelle capricieuse celle-là. Enfin, il y a toujours quelqu'un qui a un bon conseil à vous donner, la maman, la belle-maman. Ah mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. C'est une capricieuse, elle te fait une colère. Et au final, c'est très difficile de s'y retrouver en fait dans les émotions des enfants. Parce qu'à cet âge-là, ils ont vraiment du mal à verbaliser ce qu'ils ressentent, ce qui est normal. Et pour nous, on est complètement désarmés, en fait. La principale difficulté quand on est parent, c'est de savoir fixer les limites. Est-ce que c'est une colère? Est-ce que c'est parce qu'elle n'arrive pas à verbaliser? Est-ce que c'est un caprice? C'est difficile de savoir.
Au quart de la lune, bon, l'ami Pérou, prête-moi ton cul.
Et le soir, on la récupère à 18h30. Donc ça fait des longues journées, ça fait presque 10 heures de journée. Ce sont des journées qui sont plus longues que les nôtres. Et donc, ils sont épuisés et elle décharge beaucoup, en fait. Quand elle se met en colère le soir, qu'elle pleure, qu'elle hurle, c'est parce qu'en fait, elle dit « Je suis fatiguée, j'ai passé ma journée à l'école et je décharge auprès de toi. » Et j'ai beaucoup entendu que c'était un réflexe normal. Mais nous, comme on a aussi notre journée, nos soucis professionnels, nos soucis personnels et le reste... c'est trop pour nous aussi. Donc, c'est là qu'on a du mal à gérer les émotions de nos enfants.
Lorsque vous vous sentez dépassé par la situation, vous faites appel à quoi ?
Alors, ça dépend. En général, il y en a toujours un de nous deux qui arrive plus ou moins à gérer. Quand le père n'arrive plus à gérer, je prends le relais. Quand moi, j'arrive plus à gérer, il prend le relais. Et vraiment, si par exemple, je suis toute seule avec elle et que j'arrive pas à gérer, je la laisse, je m'isole. Je lui dis, écoute, pour le moment, j'ai plus envie de te parler. Je m'isole, je sors de la pièce où je lui dis, écoute, tu vas rester ici dans ta chambre, tu vas te calmer ou tu vas prendre 5 minutes pendant lesquelles on va plus se voir et on arrive mieux à gérer comme ça. Je pense que c'est plus simple, parce que sinon on se laisse emporter par nos émotions à nous, on est aussi des humains.
Docteur Benoît, qu'est-ce que vous retenez de ce témoignage de Cécile qui a du mal face aux colères que pique sa petite fille Lucie ?
Eh bien, que Lucie est une petite fille tout à fait normale et que Cécile est une maman très attentive. Elle dit qu'elle est désarmée, mais elle comprend déjà très bien sa petite fille. Elle comprend ce qui lui arrive. Et effectivement, les enfants se retiennent beaucoup à l'école. On leur demande d'être sages très longtemps. Et c'est aux parents, finalement, qu'ils vont montrer, je dirais, le côté obscur qu'ils peuvent avoir. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont gardé toute la journée, ils vont le décharger à la maison quand ils savent qu'ils sont en sécurité. Donc parfois c'est aussi le signe que l'enfant se sent en sécurité avec nous s'il se permet d'exploser et de déverser. Après il faut savoir que les enfants ont une immaturité émotionnelle. Et que les parents...
qui est lié aussi à la croissance du cerveau.
Tout à fait, au développement neuronal, neurologique, au développement hormonal après à l'adolescence. On a plusieurs choses qui peuvent jouer hein, sur les émotions, donc toute cette partie neurologique, le cerveau, etc. Et puis des dimensions héréditaires. Parfois, on a des familles où on est plus sensible sur le plan émotionnel que dans d'autres familles. Et donc, on va avoir comme ça des réactions plus vives de parents qui sont eux-mêmes hypersensibles à des enfants qui sont très démonstratif. Le problème, s'il y en a un, c'est effectivement que les parents travaillent beaucoup, qu'ils rentrent eux-mêmes fatigués, que les deux parents travaillent maintenant, et donc ils souhaiteraient pouvoir passer de bons moments avec leurs enfants et que tout soit calme à la maison et sympathique. Et malheureusement, pour eux, mais bon, c'est leur travail de parents, ils doivent faire ce travail de développement de la maturité émotionnelle de leur enfant à la maison, et ça passe par essayer d'expliquer, de analyser ses colères, de donner des mots pour les comprendre. Effectivement, ça joue avec leurs émotions d'adultes aussi.
Alors, Cécile évoquait les différentes méthodes qu'ils testaient avec leur petite Lucie. Câliner, se fâcher, l'humour, lui donner un bain. Clarisse Gardet, quelle est la meilleure méthode selon vous ?
Ben, je crois que quand on l'entend, oui, on voit que être parent, c'est tout un art hein, et que c'est à travailler chaque jour. Mais je crois qu'il n'y a pas la méthode idéale. En tout cas, il y a les choses qui, à mon avis, on ne doit absolument pas faire. C'est déjà considérer que l'enfant est au même... de prendre l'enfant pour un adulte, d'essayer de le raisonner. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ne marche pas du tout. Elle a parlé de caprice. Je crois que maintenant, il est admis qu'un enfant ne fait pas de caprice. Un enfant, il est en proie à quelque chose qui le fait vraiment souffrir. On a parlé de la dimension corporelle de l'émotion. Il est trop petit pour décoder. Il ne sait pas ce qui lui arrive. Et ça fait mal d'avoir peur. Ça fait mal d'être en colère. Donc, je pense que moi, souvent, ce que je conseille, c'est de réagir exactement comme quand un enfant se blesse. On le soigne d'abord, même si s'est blessé par exemple avec une paire de ciseaux qu'il n'avait pas le droit de toucher, on le soigne d'abord, on le console et puis ensuite on s'explique. Et donc c'est ça l'art d'être parent, c'est que effectivement il faut mettre un cadre, il faut pas que ça déborde. Le gros travail du parent aussi c'est de ne pas faire une escalade émotionnelle, parce que si la colère d'abord nous agace voire nous met en colère, donc je trouve que cette maman elle est merveilleuse, parce que on sent que quand elle ne peut plus elle prend le relais avec le papa, enfin ça a l'air d'être vraiment une famille formidable.
Et vous dites que face à un enfant comme ça, victime de colère, de sa colère, il vaut peut-être mieux rester, garder le silence oui. Et le laisser peut-être se calmer tout seul, ou rester à proximité.
Être vraiment proche. Il a besoin de notre soutien. Voilà. Pour moi, c'est, je peux pas mieux dire que
c'est un enfant en détresse.
Il a mal. Donc il a pas mal. Ça ne se voit pas, mais il a mal. Et donc on est adulte. On doit être là pour l'accompagner. Alors quelquefois, il y a des enfants qui sont très colériques. Ça peut passer par, je sais pas, lui donner un coussin pour qu'il tape dessus et pas qu'il se fasse mal, parce qu'il y a des enfants qui tapent dans les murs ou qui risquent de se faire mal. Mais je pense que le laisser dans sa chambre tout seul en lui disant tu vas te calmer,
c'est pas la bonne solution.
Non,
il faut être présent.
Oui,
même sans parler, mais être
voilà,
présent.
Être présent, qu'ils comprennent qu'il y a de l'espace. La colère, la peur, ça réduit. On a l'impression d'être dans un carcan. On est vraiment prisonnier de quelque chose, de cette émotion. Et donc dire voilà, on va déjà laisser un peu d'espace, et le temps, c'est de l'espace aussi. Comme elle dit cette maman, on n'en a pas toujours, parce que quelquefois il y a des frères et sœurs, quelquefois il y a le dîner, il y a le coucher. Voilà. Et on le sait, la vie n'est pas simple quand on travaille, et qu'on doit avoir des soirées qui sont très réduites avec les enfants, où il doit y avoir le bain, le dîner, le coucher en temps et en heure. C'est pas simple, mais voilà, c'est à apprivoiser tout ça.
Docteur Benoît, dans tous les cas, il ne faut pas interdire à l'enfant d'avoir des émotions. Ce serait même nocif pour sa santé.
Oui, parce que sinon, il va commencer à se méfier de ses émotions, à se dire quand j'ai peur, c'est un problème, quand je suis triste, c'est un problème. Il vaudrait mieux que je ne ressente pas tout ça. Et on va avoir des enfants qui vont développer une peur de leurs propres émotions, d'être au contact de ce qu'ils ressentent. Et donc, soit avoir des émotions superficielles et ne plus être au contact d'eux-mêmes, presque ne plus du tout réussir à dire quoi que ce soit, être ce qu'on appelle un peu dissocié parfois, c'est-à-dire des enfants qui ont l'air très sages, ont l'air très gentils, mais sont un petit peu vides, comme ça, hein, ça manque un peu de vie, puisque par peur d'être au contact d'émotions difficiles pour lesquelles ils sentiraient qu'ils ne seraient pas aidés, par exemple si on les a laissés dans la chambre tout seuls pendant de longues minutes alors qu'ils se sentent mal, ils vont se dire il vaut mieux que je ne ressente pas du tout ces émotions, et donc il vaut mieux ne pas ressentir du tout d'émotions. Et le problème, c'est que ce sont des enfants qui peuvent donner le change pendant plusieurs années. On peut même avoir des enfants qui réussissent bien, qui ont des bonnes notes, etc. Mais ils sont un petit peu morts à l'intérieur. Et le problème, c'est qu'à l'âge adulte, souvent, ce sont des gens qui restent assez tristes, qui mènent une vie avec une souffrance souvent cachée, qu'ils ont du mal à expliquer aux autres, tout simplement parce que les autres n'ont pas été là autour d'eux pour accompagner ces émotions qui font partie de la vie.
On va prendre des témoignages maintenant au standard. Un premier témoignage d'Atia qui nous appelle de Dakar au Sénégal. Bonjour Atia.
Bonjour Chantal.
Atia, on vous écoute.
Bonjour à toute l'équipe de Priorité Santé. Bonjour aux invités. Voilà, ma situation est un peu compliquée. Bon, cela remonte depuis l'enfance. J'ai subi beaucoup de répression venant de ma maman. Vous savez, un enfant aime plutôt qu'on le chouchoute et qu'on lui donne beaucoup d'amour. Mais quand il y a les injures, la répression, c'est la peur qui s'installe en fait. C'est ce qui m'est arrivé depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est ce que je vis. Quand j'étais enfant, elle me tapait la plupart du temps. Elle choisissait même l'heure à laquelle il n'y a personne pour intervenir. La plupart du temps, la nuit, elle m'empêchait même de pleurer quand elle me tapait. J'ai toujours les larmes aux yeux jusqu'à aujourd'hui quand je repense à ça.
Et personne ne vous défendait dans la famille? Votre père n'était pas là?
Non, mon père est un émigré, il est toujours à l'extérieur. Bon, quand je dis c'est la nuit qu'elle agissait. Là où il n'y a personne pour me défendre et tout. Bon, c'est compliqué, il n'y avait personne. Et cela m'a beaucoup affectée, oui.
Jusqu'à aujourd'hui, vous dites?
Jusqu'à aujourd'hui.
Ça veut dire...
Je suis devenue distante, très timide et tout. Voilà, je participe... Quand j'étais à l'école même, je participais même pas en classe. N'empêche que j'arrivais à avoir de bonnes notes et tout. Et... Jusqu'à aujourd'hui, j'ai un contrat professionnel, je travaille, mais ça ne donne rien jusqu'à présent. Même au travail, je ne participe pas dans les réunions et tout. Je reste toujours à mon coin, je fais mon travail et je suis à l'heure de défendre, je pars.
Et Atia, vous êtes devenue maman, vous êtes mariée, mère de famille. Comment ça se passe avec vos enfants? Est-ce que vous leur donnez tout ce que vous n'avez pas reçu, vous, de votre mère?
C'est ça, oui. J'essaie toujours de faire de mon mieux pour que mes enfants ne sentent pas ce que j'ai ressenti jusqu'à présent. Il m'arrive de les taper un peu, Mais après, je reviens pour discuter et avec un petit câlin, je leur dis que c'était juste une petite correction et j'étais passée et je discute avec eux, en fait. C'est des enfants de 5 à 6 ans, 3 ans, mais j'arrive à discuter avec eux, à parler et tout.
Mais au fond de vous-même, vous avez toujours cette même peur de parler avec les autres, c'est ça?
Oui, c'est ça. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai la peur de parler devant les gens inconnus ou même des gens que je connais et tout.
Docteur Benoît, qu'est-ce qu'on peut dire à Atia sur les traces qu'a laissées cette éducation extrêmement sévère de sa mère?
Oui, l'éducation très sévère fabrique des petits traumatismes répétés, c'est-à-dire que une seule colère, bon. D'accord, mais quand c'est tous les jours, tout le temps, toute l'enfance, ça finit par faire une blessure qui est très profonde et qui ne cicatrise pas. Donc, on a des enfants, soit parce que les adultes ont été très en colère avec eux, soit parce qu'ils les ont ignorés quand ils ont manifesté des émotions de détresse, qui vont apprendre, comme je vous disais, à se méfier des autres, c'est-à-dire les autres ne peuvent pas m'aider, et à se méfier d'eux-mêmes. Ce que je ressens à l'intérieur est menaçant, il vaut mieux que je n'y fasse pas trop attention. Et donc, on va avoir des adultes qui vont avoir une tristesse très profonde, ce qu'on entend chez Atia. On entend cette tristesse qui reste là, un peu comme un noyau très triste, même si elle réussit bien beaucoup de choses dans sa vie, elle a beaucoup de ressources, et un évitement des autres, un évitement des enfants. Le risque aussi, c'est de répéter ce qu'on a connu, puisqu'on n'a pas d'autres modèles. Donc, on va éviter d'être au contact d'émotions trop douloureuses avec ses enfants, donc soit les rejeter, soit se mettre en colère contre eux. Et donc, ce qu'on voit, c'est que Atia, malgré sa conscience très fine des difficultés qu'elle a eues avec sa maman, par moment, elle est quand même tentée de refaire la même chose parce qu'elle n'a pas eu d'autre modèle. Déjà, pour accueillir ses émotions, c'est pas facile quand on a toujours essayé d'éviter ses émotions de détresse. Et puis, malgré le ressenti de détresse qu'on peut avoir en tant que parent, comment réussir à accueillir l'enfant, à le réconforter sans avoir besoin de passer par les coups, sans avoir besoin de passer par la colère, puisque quand on fait ça, la petite fille ou les enfants d'Atia, eux aussi, vivent ce qu'Atia a vécu quand elle était petite et ce qu'il a beaucoup abîmé.
Alors Atia a vu un psychologue, mais ça n'a servi à rien, hein, c'est ce que vous dites Atia. Donc qu'est-ce que vous lui conseillez de revoir, de retenter l'expérience, d'aller voir quelqu'un d'autre?
Oui,
de se faire aider.
Pour un travail émotionnel, il y a beaucoup de psychologues qui sont pas très bien formés finalement au travail émotionnel, hein, on peut en parler, qui vont parler plus des idées, alors qu'est-ce que vous pensez de votre maman, qu'est-ce que vous pensez de votre papa, etc. Mais qui vont jamais dire qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps. Et les gens vont même pas se sentir autorisés à dire, mais moi quand je pense à ma mère ou à mon père, j'ai l'estomac qui se serre, j'arrive plus à parler, j'ai l'impression d'avoir 5 ans à nouveau. Et tant qu'on n'arrive pas à accueillir ça, à parler du corps, à parler du fait qu'Atia, par moment, elle se sent encore toute petite, elle va pas réussir à soigner cette petite fille blessée et donc elle pourra pas, même si elle a bien réfléchi avec son cerveau, avec le psychologue, elle réussira pas, quand elle est dans la situation émotionnelle, à dépasser ça, à grandir et puis avoir une attitude plus accueillante pour ses enfants.
Merci beaucoup Atia de nous avoir appelés. Bonne journée à Dakar au Sénégal.
Priorité santé sur RFI.
Every thought that I ignore, another questions at my door. It's when we begin to believe in this again. Can we believe? Can we believe? I walk down the street with shadows at my feet and words in my head, songs left unsaid. Do you know how we got here? Do you know? To eat the words you wrote, I've said these words before, felt this break, close that door. Are you a stranger?
Begin Again, extrait du nouvel album éponyme de Norah Jones sur RFI. Priorité santé, grandir avec ses émotions. Nous sommes toujours en compagnie de Lélia Benoît, pédopsychiatre, et de Clarisse Gardet, sophrologue. Docteur Benoît, pourquoi est-ce important, il faut le rappeler, d'apprendre à l'enfant à gérer ses émotions?
Alors, à les gérer, à les connaître, hein, d'abord, avant même de pouvoir les gérer, il faut les identifier.
Voilà.
Ah oui, c'est une première étape indispensable. Sinon, on est toujours traversé de choses étranges, parfois agréables, parfois désagréables, mais pas très identifiées.
Donc, il faut mettre des mots sur les symptômes physiques qu'on
ressent. Tout à fait. Et bien distinguer les 6 émotions dont on parlait tout à l'heure, hein, parce qu'elles nous donnent des indications très précises sur ce qui est en train de se passer en nous et ce qui est en train de se passer en dehors. Ça nous permet de bien nous connaître, c'est-à-dire d'avoir de la bienveillance avec ce qu'on ressent, et de bien comprendre les autres aussi, donc d'avoir de l'empathie et de la bienveillance, à la fois avec les personnes de notre âge, donc même pour des petits-enfants, avec les camarades de classe, avec les frères et sœurs, ça va leur permettre d'être empathique, de pouvoir comprendre les autres et de se comprendre eux-mêmes. L'enjeu des émotions, c'est un peu comme celui de la liberté, c'est-à-dire que notre liberté s'arrête là où commence celle des autres, et il est important de respecter nos émotions tant qu'on ne blesse pas les émotions des autres. Pour ça, l'enfant doit connaître ses émotions à lui et pouvoir être attentif à celles des autres.
Et plus il va comprendre le monde, mieux il va maîtriser ses émotions.
Tout à fait. Ça, c'est ce que disait aussi Daniel Goleman, hein, sur l'intelligence émotionnelle.
C'est lui qui a inventé, qui a mis au point, qui a théorisé en tout cas,
c'est ça,
l'intelligence émotionnelle.
Exactement. Jusque-là, on parlait de l'intelligence du quotient intellectuel, donc la logique, le raisonnement. Et Daniel Goleman dit, disons qu'à partir d'un moment où vous avez une bonne logique, un bon raisonnement, hein, que ça va bien de ce côté-là, ce qui va déterminer la réussite dans votre vie, votre capacité à être à l'aise avec les autres, à être bien, c'est votre intelligence émotionnelle. C'est-à-dire votre capacité à identifier vos émotions, à les gérer, et puis à comprendre celles des autres et à déployer de l'empathie, de la bienveillance.
On va partir maintenant pour le Sénégal, retrouver le professeur Lamine Fall. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service de pédopsychiatrie de l'hôpital de Fann, à Dakar. Professeur Fall, est-ce que des parents viennent vous voir car le dialogue est rompu avec leurs enfants ou leurs adolescents?
Oui, ça arrive, surtout avec les adolescents. Disons, actuellement, les familles sénégalaises ont modifié leur configuration. C'est de plus petites familles, donc il n'y a pas beaucoup de ressources autour pour remettre un peu pour médiatiser. Donc,
Professeur Fall, excusez-moi, mais la ligne n'est pas très bonne. On va essayer de vous rappeler dans quelques minutes. Il y a une période, hein, le professeur Fall en parlait à l'instant, où les émotions reviennent en force, c'est l'adolescence.
Alors, comment s'est passé ce premier jour d'école?
Attention, elle nous cuisine.
Je passe mon tour, vas-y, c'est toi qui fais la joie.
Quoi? D'accord.
Bien, enfin, je crois. Je sais pas trop.
Oh, magnifique, ça c'était vraiment trop la joie.
Cette fois, il y a vraiment un truc qui cloche.
Elle n'a jamais réagi de cette façon. On a une solution.
Il faut analyser ça de plus près.
Alors, ça va à l'école, chérie?
C'est pour ça qu'on a largué notre pilote d'hélicoptère brésilien.
Tout s'est bien passé, ok?
Riley, tu es sûr que ça va?
Chef, elle a levé les yeux au ciel, chef!
Pourquoi elle nous cherche? Très bien, première sommation, avant de taper du poing sur la table.
Non! Pas le poing!
Riley, je n'aime pas du tout ce genre d'attitude.
Ah ouais? T'aimes pas ce genre d'attitude? Eh ben tu vas être servi!
Non, 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 pas le poing!
C'est quoi ton problème? Lâche-moi, d'accord?
Niveau d'insolence critique, chef!
Lancez plan Vigifurax 2!
À vos ordres, chef! Vigifurax 2!
Attention, Riley, tu as tout intérêt à me répondre sur un autre ton, compris?
Qu'est-ce qu'il y a? Il me cherche le petit papa! Allez, viens, je t'attends!
Ah oui? Eh bah...
Ça s'échauffe! Armez le poing!
Double clé en position! Parez à taper du poing sur la table!
Oh, la ferme!
Feu!
Ça suffit, monte dans ta chambre!
On vient d'entendre un extrait du film de Disney sorti en 2015, Vice-versa. Vice-versa dont l'héroïne, la jeune Riley, se retrouve brusquement dans une nouvelle ville, San Francisco, une nouvelle école et une nouvelle maison. Docteur Benoît, en quoi ce film illustre-t-il le tourbillon émotionnel qui submerge souvent les adolescents?
Alors, ce film est magnifique. Hein. Il est vraiment très, très utile. On peut l'utiliser pour discuter avec les parents et les ados, déjà parce qu'il montre toutes les émotions, hein, la peur, la tristesse, la joie, le dégoût, la colère, et parce qu'il montre comment elle dialogue dans la tête de la jeune fille, Riley, et dans ses interactions avec les autres. Donc, c'est vraiment un film presque... c'est un cours de psychologie, si vous voulez. Ce qui est très intéressant pour les adolescents, c'est que le film montre que la dépression chez les adolescents se manifeste très souvent sans tristesse. C'est quelque chose de très juste dans la réalité et le film le montre très bien. Riley essaye d'évacuer sa tristesse parce qu'elle n'a pas envie d'être triste, de pleurer, etc. Et les adolescents le font beaucoup. Et donc, qu'est-ce qui reste quand on enlève la tristesse? Il reste la colère. Là, on voit qu'elle est furieuse contre son père.
L'agressivité,
le dégoût, la peur, etc. Et donc, c'est des émotions masques qui viennent masquer la tristesse et qui donnent une mauvaise information à l'entourage. Les parents, en face, voient un adolescent qui est insolent, qui claque la porte, qui leur répond mal, qui ne veut plus rien faire. Et donc, se disent, ah, c'est sûr, c'est le fameux caprice, il ne fait pas d'effort, il ne veut rien. En réalité, c'est un adolescent qui va très mal, mais qui n'arrive pas à s'en sentir sa tristesse. Et c'est quelque chose de très très fréquent. Je passe beaucoup de temps à expliquer aux parents, votre enfant va mal, il est triste mais il ne le sent pas. Et c'est une dépression, le fait qu'il soit en colère, fâché avec la vie, mécontent de tout. Donc c'est important puisque sinon la réaction des parents, ça va être la réaction autoritaire, comme le père qui dit, puisque c'est comme ça, tu montes dans ta chambre. Et on se retrouve une fois de plus, avec un jeune qui vit des émotions très difficiles et qui est isolé tout seul face à ses émotions et donc qui va créer de la méfiance vis-à-vis des autres en se disant « on ne peut pas compter sur les autres pour m'aider ».
Et une situation bloquée au sein de la famille.
Tout à fait.
On va retourner au Sénégal. On a retrouvé le professeur Lamine Fall. Professeur, est-ce que les parents viennent vous voir facilement quand le dialogue est rompu avec leurs enfants ou leurs adolescents?
Bon, il faut pas dire que c'est facile. Hein. Donc souvent c'est pas facile. Donc, mais ils viennent quand même. On n'a pas encore de service spécialement dédié aux adolescents. Donc ce qui fait qu'on les voit souvent dans le cadre d'un service de pédopsychiatrie, soit aussi, autant les enfants que les adolescents mélangés.
Et quelle prise en charge proposez-vous aux parents pour rétablir le dialogue rompu ou difficile, en tout cas, avec leurs enfants?
Alors, dans le cadre de la prise en charge, effectivement, on essaie au maximum d'impliquer toutes les ressources familiales. Donc, c'est souvent des approches familiales qui travaillent effectivement beaucoup sur les émotions parce qu'il faut effectivement pouvoir faire comprendre la souffrance de l'adolescent, qui souvent n'est pas reconnue du tout, et ce qui fait que c'est beaucoup de confrontation. Mais généralement, quand on permet l'expression de toutes les émotions, en fait, aussi bien du côté des parents que du côté des jeunes, donc on arrive plus ou moins à mobiliser certaines choses et à remettre le lien et une meilleure communication, donc ce qui permet de faire évoluer les situations.
Est-ce que vous devez encore expliquer ou souvent expliquer aux parents que les enfants, que les adolescents ont le droit de pleurer, ont le droit d'être en colère? Est-ce que ces émotions sont reconnues comme légitimes dans les maisons, dans les familles?
Oui, c'est variable. Donc, il faut dire que quelquefois, comme dans le cas de celle qui vient de parler, la Atia,
qui appelait du Sénégal, oui, tout à l'heure aussi, oui.
Tout à fait. Je pense qu'il y a effectivement des parents qui ont eu des difficultés durant cette histoire par rapport à l'éducation et qui effectivement rejouent un peu les mêmes enjeux lorsque leur adolescence, disons, atteint le même âge, plus ou moins comme si ça le replongeait dans leurs propres problématiques. Donc, c'est qu'il y a beaucoup de confusion, effectivement, entre les histoires de l'enfant et celles des parents.
Et donc, quels sont les principaux sujets de conflit aujourd'hui entre les adolescents et leurs parents, d'après ce que vous constatez auprès de vos patients?
Oui, c'est essentiellement les relations avec l'extra-familial, donc notamment le choix des compagnons, donc l'utilisation donc du portable, notamment de l'Internet par rapport à des amis, à des contacts extérieurs, à l'usage qu'ils en font parfois qui ne correspond pas forcément aux valeurs familiales. Donc, ça peut parfois créer de la honte pour certains parents de voir leur enfant ou adolescent, donc dans certaines situations, qui sont diffusées sur les réseaux sociaux, par exemple.
Professeur Fall, quel est le message que vous avez envie de faire passer auprès des parents qui nous écoutent?
Oui, je crois qu'il faut vraiment analyser, permettre de reconnaître la souffrance des enfants, notamment lorsqu'ils ne savent pas exprimer clairement leurs expressions de leurs émotions et qu'ils passent à l'acte souvent. Donc, qu'ils sont en colère, qu'ils se négligent parfois, en fait, qu'ils sont quasiment dans une vraie dépression et qu'on pense souvent qu'ils font exprès, parce qu'ils ne veulent pas, qu'ils se négligent. Donc, je pense qu'il faut vraiment penser, les accompagner dans ce travail, notamment d'adolescence, qui est très difficile pour eux. Donc, garder la communication et, si possible, aussi demander de l'aide au niveau professionnel.
Merci beaucoup, professeur Lamine Fall, d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes chef du service de pédopsychiatrie de l'hôpital de Fann à Dakar. Bonne journée à vous. On va retourner au standard où nous attend Abdoul Nasser. Bonjour, Abdoul. Abdoul, est-ce que vous êtes là? Abdoul, vous nous appelez de Diffa, au Niger. Abdoul, je vous donne la parole.
D'accord, bonjour.
Bonjour Abdoul.
J'appelle de Diffa, je suis assistant en protection avec une organisation internationale qui est dans l'urgence. En fait, ma question est relative surtout aux enfants de la petite enfance qui ont l'habitude de pleurer beaucoup. Et qui, malheureusement, des fois, certains parents ne s'occupent pas directement de ces enfants-là. Ils peuvent être laissés en train de pleurer pendant une période de temps, un peu plus. Donc, je voudrais savoir quel impact ou quelle conséquence négative cette durée peut avoir sur les enfants dans leur développement cognitif ou dans leur psychologie, je veux dire.
Docteur Benoît, laisser pleurer un enfant, quel impact cela peut-il avoir sur son développement?
Alors, le problème, c'est que l'enfant ne se sent pas écouté quand on le laisse pleurer, il n'est pas rassuré et il n'identifie pas son émotion. Donc, c'est comme si on le laissait seul face à quelque chose qui le déborde. Il est très en difficulté pour le gérer et on ne lui donne absolument pas les outils pour à la fois se rassurer et pouvoir un jour se rassurer seul parce qu'il aura suffisamment bien compris.
Il y a pas des méthodes, mais on peut donner peut-être des tuyaux aux parents pour réagir quand leur enfant est submergé par une émotion quelle qu'elle soit. Si l'enfant est très en colère, est-ce qu'on peut essayer de le faire respirer lentement, par exemple, Clarisse Gardet?
Ah oui, la respiration, c'est tout ce qui peut aider physiquement. Vraiment, je crois que c'est le message à faire passer. Et puis il y a aussi cette interaction avec l'émotion du parent. Là, la personne qui intervenait parlait de demander de l'aide. Le parent aussi, il est souvent débordé par son émotion. Parce que s'il y a la question « laisser pleurer un enfant », c'est qu'on n'a pas, on a pas réussi à le consoler et qu'on est complètement démuni face à ça. Et je crois que l'éducation bienveillante, elle n'exclut pas qu'il y ait un cadre. Elle n'exclut pas que le parent, il écoute aussi sa propre émotion. Le parent, il peut tout à fait dire, et un enfant va l'écouter parce qu'il va s'instaurer un dialogue au lieu d'une autorité « ne pleure pas », de dire « moi, je suis fatiguée de t'entendre pleurer, ça me fait tel effet ». Voilà. Et si vraiment c'est fait en situation, en temps réel, il va y avoir quelque chose qui va s'installer et on peut même dire à ce moment-là, on va essayer de se poser ensemble, de respirer ensemble. Et là, après, il y a plein... Moi, j'aime pas trop les exercices de respiration, parce que là, les enfants, ils ont déjà tellement de choses qui les formatent, mais on peut imaginer plein de choses. On peut imaginer... par le jeu, des choses ludiques. Donc, par exemple, pour la respiration, on souffle dans une paille ensemble. Mais vous voyez, c'est pas le parent qui fait souffler dans la paille. Une paille, par exemple, quand on souffle dedans, ça fait du chaud. Donc, on peut se le faire tour à tour, on peut expirer tour à tour dans la main. Voilà, ça peut être un exemple.
Quand l'enfant est plus grand, ça peut passer par des jeux de mime aussi?
Oui, moi j'aime bien utiliser, quand on doit vraiment se poser, se rassembler, l'idée du funambule, parce que un funambule, on n'a pas besoin d'être sur une corde. Ne serait-ce que mettre un pied devant l'autre, ça aide tout à fait à se recentrer. Voilà, des choses qui sont très très simples. Si l'anniversaire de l'enfant est proche, par exemple, on peut imaginer combien de bougies on va souffler, et les souffler, ça fait expirer. Vous voyez, toutes ces choses assez ludiques autour de la respiration, mais je conseille vraiment de les faire ensemble.
Voilà, Abdoul, on a répondu à votre question. Il ne faut pas laisser les enfants pleurer. Il faut essayer de convaincre les parents de ne pas laisser leurs enfants comme ça isolés dans leur détresse qui s'exprime par des larmes, parce que ils sont tout petits, qu'ils ont du mal, j'imagine, à verbaliser. Vous vouliez ajouter quelque chose, docteur Benoît?
Oui, il y a aussi des fois la peur des adultes et des enfants que lorsqu'on est traversé par une émotion, l'émotion ne s'arrête jamais. Quand on ressent de la tristesse, on se dit, oulala, est-ce que je vais être triste infiniment toute ma vie, est-ce que je vais m'enfoncer complètement? En fait, l'émotion, elle nous traverse et puis elle passe. Et c'est aussi très utile pour les enfants de savoir que leurs parents peuvent rester avec eux, y compris sentir l'émotion avec eux, parce que la tristesse, c'est communicatif, mais que ça va passer. En fait, en 2 minutes, 3 minutes, ça va déjà mieux. Et la seule chose qu'on a fait, c'était d'être ensemble. Et l'émotion, elle passe un peu d'elle-même. Ça, c'est très rassurant de savoir que, voilà, même si on vit des choses qui sont très bouleversantes, ça va passer.
Clarisse Gardet, vous intervenez à l'école occidentale de méditation. En quoi la méditation apprend-elle à l'enfant à accueillir les émotions qui le traversent, qu'elles soient positives ou négatives ?
Alors, je dirais que la méditation, elle aide aussi dans la cellule familiale, parce que c'est pas la méditation telle qu'on la présente n'est pas un exercice de plus comme le serait un exercice de respiration. C'est justement on pourrait dire un art de vivre, une façon
quelque
de voir
chose
les
qu'on
choses
partage.
Au long cours et qu'on partage. Donc déjà, ça aide à se poser, ça aide à avoir moins peur du silence, ça aide à avoir moins peur des émotions, justement. Et Leïla disait, ça passe. Oui, ça passe, mais on veut pas les évacuer. C'est à ça que ça aide aussi. C'est que l'émotion, elle nous parle de quelque chose. On est traversé par une émotion parce que quelque chose nous a blessé, par exemple, dans le cas de la tristesse, quelque chose nous a fait peur, quelque chose nous a contrarié pour la colère, et je crois que ça aide à se poser ensemble, à le regarder. La méditer, c'est se poser pour voir, c'est pas se poser pour se calmer, c'est pour voir qu'est-ce qui m'arrive, quels sont mes ressentis, et donc ça aide vraiment dans ce sens-là à vivre pleinement sa vie, à voir exactement ce qui nous arrive, et justement pas à vouloir... Tout à l'heure, il y avait le mot « gérer », c'est vrai que c'est un mot simple, c'est facile comme mot, mais moi, je dirais plutôt apprivoiser ses émotions. Voilà, comme c'est quelque chose qui est en nous, qui nous fait peur, on a l'impression que ce sont des monstres. Souvent, les parents aussi, ils parlent des émotions des enfants un peu comme des maladies ou des choses qu'ils auraient, et il nous faudrait une baguette magique pour les arrêter. Et je crois que c'est plutôt de l'ordre de l'apprivoisement. Et pour l'enfant, pour l'adolescent, la cellule familiale est très très importante à plein de titres.
Et à partir de quel âge un enfant peut-il méditer avec ses parents?
Oh, je crois que ça, c'est les parents qui décident, à mon avis, très très jeune. En fait, si les parents méditent, l'enfant les voit faire. Et un enfant, c'est vraiment un être en construction, et il se construit en premier lieu avec les adultes qui sont proches, donc ses parents. Donc, autant un enfant qui voit ses parents se mettre en colère facilement, avoir très peur de certaines choses, il va forcément avoir ce type de repère. Et s'il voit que des parents qui s'habillent s'habituent à se poser, et ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas stressés, mais ils se ménagent des moments, ils ont cette qualité de vie. Je crois qu'il va apprendre à le faire, il va apprendre par mimétisme.
Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été nos invités. Docteur Lélia Benoît, pédopsychiatre à la maison de Solène à Paris. Clarisse Gardet, sophrologue, vous venez de publier « Grandir avec ses émotions » aux éditions du Livre de Poche.
Priorité santé sur RFI.
On retrouve à présent le docteur Jean-Marc Sen. Bonjour.
Bonjour Chantal.
Vous êtes médecin du sport et de l'équipe de France de judo. Docteur Sen, vous nous parlez régulièrement des bienfaits de l'activité physique sur la santé. Aujourd'hui, vous avez choisi d'évoquer une enquête menée en France par l'Institut de sondage Ipsos sur 2000 personnes de plus de 15 ans. Et cette enquête dévoile qu'en 2018, les femmes ont consacré plus de temps au sport.
Alors absolument Chantal, c'est 18 minutes de plus en moyenne. 3h18 par semaine contre 3h en 2017. Alors c'est vrai que c'est une belle progression, mais ça ne permet tout de même pas de combler l'écart avec les hommes qui continuent à consacrer plus de 42 minutes, hein, c'est-à-dire près de 4 heures d'activité physique par semaine. Et pourtant, on se rend compte que 4 femmes sur 5 aimeraient pouvoir pratiquer bien plus souvent du sport et pourtant n'arrivent pas à le faire.
Alors qu'est-ce qui les empêche de le faire ?
Alors, l'étude, bien sûr, s'est intéressée à cela hein, et ont interrogé les Françaises sur ce sujet, et notamment celles qui pratiquaient moins d'une heure d'activité physique par semaine. Et deux éléments ressortent là-dessus. La première chose, c'est le manque de temps. Et puis, le deuxième élément, c'est la remise en cause de leur capacité physique. Alors, par exemple, il y avait 2/3 des Françaises qui estiment que leurs journées sont trop chargées pour pouvoir pratiquer une activité physique. Et puis, 58% n'ont pas une bonne image de leur corps. Et ça, c'est un frein énorme pour se montrer en public, aller à la piscine ou faire du sport en groupe. Et à peu près une Française sur deux avait peur aussi de ne pas pouvoir réussir physiquement. En résumé, les femmes françaises manquent de temps et de confiance en elles. Et ça, c'est des déterminants psychologiques qui sont un véritable obstacle à la prise de l'activité physique.
Alors, qu'est-ce qui pourrait aider les femmes à faire plus de sport selon elles ?
Alors, parmi les arguments, les femmes avancent la notion de personnalisation de l'activité physique. Hein. 3/4 estiment que si les cours étaient adaptés à leurs conditions physiques, eh bien, elles pourraient bien sûr faire beaucoup plus de sport. De même, si les conseils étaient plus personnalisés, cela les inciterait également. Et puis, bien sûr, plus de 2/3 aimeraient dégager plus de temps pour tout cela. Donc, des cours adaptés, des conseils personnalisés, c'est la clé, c'est la solution pour inciter les femmes à faire plus de sport. Ça, c'est un message clair qui est envoyé aux professionnels et aux encadrants des cours sportifs. N'oublions pas qu'augmenter l'activité physique chez les femmes, c'est un enjeu de santé publique.
Docteur Jean-Marc Sen, merci beaucoup, à bientôt.
Merci Chantal.
Priorité santé touche à sa fin. Merci à Setoussa Maquet et Ophélie Lassen qui m'ont aidé à préparer cette émission et à Nicolas Benita qui l'a réalisée avec Laurent Hérault au standard pour les appels. Demain, nous parlerons des personnes toxiques, pervers narcissiques, jaloux, manipulateurs en tout genre. Comment les reconnaître? Comment s'en protéger? Comment les éviter? Si vous voulez témoigner ou poser des questions, appelez-nous au 33 1 84 22 75 75. Vous pouvez réécouter Priorité santé en podcast sur notre application Pure Radio et sur notre site internet rfi.fr dans la rubrique émissions. À demain et portez-vous bien.
Comme les prévoyants maîtres de chantier, protégez vos ouvrages avec Suno Assurance. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance. Autour de la question.